Bonjour, aujourd'hui on explore le parcours d'un véritable visionnaire dans ce nouveau décryptage. L'histoire qu'on va parcourir ensemble, c'est celle d'un homme passé d'un garage étouffant à la tête d'un empire mondial. Pas de fioritures, juste les faits. La trajectoire fascinante d'un individu qui a réussi l'exploit incroyable de mettre littéralement toute la Provence dans un seul verre.
Allez, on plonge dans le vif du sujet. Faisons un saut dans le temps, direction 1932. Il fait une chaleur à crever. L'air est lourd, saturé d'une odeur épicée, hyper enivrante. Et c'est en plein milieu de cette fournaise marseillaise qu'une ambition très claire prend forme. Je vais créer le pastis parfait, celui qui va sentir la Provence, le soleil, l'été. Ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est une promesse, un véritable engagement sensoriel pour faire voyager instantanément tous ceux qui goûteront à cette boisson.
Première partie, le rêve dans le garage.
Le génie derrière ce projet n'a que 23 ans. Il s'appelle Paul Ricard. Fils d'un employé de commerce, il n'a ni grand laboratoire luxueux, ni financement illimité. Lui, il est penché sur des alambics, il bricole avec acharnement dans le garage de ses parents, à Sainte-Marthe, dans les quartiers nord. La simplicité de la formule secrète est d'ailleurs assez frappante. De l'anis étoilé, de la réglisse, des herbes de Provence et de l'alcool neutre. Il faut vraiment s'imaginer ce petit garage complètement imprégné par ses odeurs intenses. Il goûte, ajuste, recommence. Des dizaines de fois. C'est le travail minutieux d'un artisan obstiné. Et ça, malgré le regard un peu sceptique de sa propre famille qui devait supporter cette odeur d'anis au quotidien.
Deuxième partie, une boisson sous la prohibition.
Le point crucial, c'est le contexte de l'époque. Parce que ce travail d'orfèvre se heurte à une réalité législative très stricte. En 1915, la France interdit purement et simplement les boissons anisées distillées, dans la foulée de l'interdiction de l'absinthe. Pour le midi, où cette habitude était profondément ancrée, c'est un sacré coup dur. Mais en observant la chronologie, on réalise que c'est en plein cœur de cette interdiction, en 1932, que la recette est perfectionnée en ce près. Une vraie stratégie de contournement, totalement neutre d'un point de vue politique, mais audacieuse, qui va durer jusqu'à ce que la loi finisse par changer en 1938.
Troisième partie, l'ascension à bicyclette.
Et ça illustre brillamment un sacré défi. Comment faire connaître un produit qui n'est pas encore légal? Eh bien, c'est du pur marketing de terrain, bien avant l'ère des agences de pub. Le vrai secret de ce succès clandestin, c'était ce nuage magique. Un liquide au départ d'un bel or qui se trouble de façon spectaculaire dès qu'on y ajoute de l'eau. L'expérience n'était pas juste gustative, elle était hyper visuelle. Dans les bistrots marseillais, distribués sous le manteau, le produit fait un carton immédiat.
Quatrième partie, la légalisation de l'empire. Puis vient le tournant décisif. En 1938, la loi évolue enfin et le pastis est officiellement autorisé. C'est là qu'on observe un changement d'échelle fulgurant. D'un côté, on a les débuts du système D. Les tournées à bicyclette, le contact humain ultra direct avec les patrons de café, la force du bouche à oreille. Et puis soudain, l'explosion. Les vannes s'ouvrent. De véritables usines voient le jour, des dépôts nationaux sont créés et les représentants sillonnent toute la France. C'est la puissance de la connexion humaine des débuts qui propulse cette machine de guerre.
Mais au milieu de cette croissance incroyable, une chose reste absolument immuable. Ricard, le vrai pastis de Marseille. Cette signature, c'est l'ADN de la marque. Un choix farouchement cohérent assumé depuis les premiers jours qui a permis de garder l'âme du produit complètement intacte pendant toute son expansion nationale.
Passons à la suite pour voir comment tout ça se construit avec notre cinquième partie, le visionnaire, écologiste et artiste. Parce que l'homme révèle une diversité de passions fascinantes, bien au-delà du monde des affaires. C'est la règle de trois d'un esprit bouillonnant. Premièrement, le sport automobile. Il fait construire le célèbre circuit Paul Ricard pour la Formule 1 et les tests de demain. Deuxièmement, l'écologie. Quand il achète l'île des Ambiers au large de Six-Fours, ce n'est pas pour y faire une marina privée, mais pour créer un institut océanographique ouvert au public. Il avait compris très en avance que la Méditerranée était un bien commun à protéger. Et troisièmement, l'art. Il était aussi peintre, réalisant des toiles vibrantes inspirées par sa région.
Ce côté éclectique, à la fois utopiste et rebelle, est parfaitement résumé par sa devise personnelle. Si c'est possible, c'est déjà fait. Si c'est impossible, c'est à faire. Une phrase qui capture vraiment son refus des limites, que ce soit pour créer une boisson interdite, protéger l'océan ou bâtir un circuit mythique.
Sixième et dernière partie, l'héritage provençal.
C'est en 1997 que s'éteint Paul Ricard, à l'âge de 88 ans. Et l'empreinte laissée après toute une vie d'innovation est juste monumentale. Le petit artisan du garage de Sainte-Marthe laisse derrière lui le groupe Pernod Ricard, devenu aujourd'hui l'un des leaders mondiaux incontestés des spiritueux.
Ce qui amène inévitablement à cette question finale. Lorsqu'un verre de pastis est commandé et que l'eau vient créer ce nuage magnifique dans le liquide doré, est-ce la magie de Paul Ricard qui opère à nouveau?
Cette simple transformation au fond d'un verre rappelle que l'objectif premier était de capturer le soleil de l'été. Une expérience sensorielle du quotidien qui perpétue encore, à chaque gorgée, l'intuition géniale d'un gamin de Marseille.